Et bonjour et bienvenue sur Fréquence 7 dans le journal des rencontres. Nous sommes en direct du studio 103 au centre Le Bourneau et au plus près des rencontres des cinémas d'Europe pour cette 25e édition. Et aujourd'hui, autour de notre table, nous recevons Sophie Cellier qui est directrice de La Baume en musique. Salut Sophie.
Bonjour.
Et ce n'est pas tout parce que nous allons aussi parler de Roquette et les Mal-aimés en compagnie de Hélène Duroc et Pierre Dron.
Bonjour.
Et bien sûr, accompagnée de Sophie de Fréquence 7.
Oui, bonjour. Sophie de Fréquence 7, c'est mon nouveau nom de famille.
Oui, exactement.
Merci beaucoup.
Mais tout d'abord, nous allons donc parler d'un ciné-concert qui va se dérouler au théâtre de Vals-les-Bains, ce soir à 20h30. Et donc Sophie Cellier qui est là pour nous en parler. Un ciné-concert pour tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter qu'est-ce qu'un ciné-concert pour ceux qui ne sont pas habitués à ce principe, un ciné-concert?
Bien sûr, alors un ciné-concert historiquement c'est un film ou des films ou des documentaires et avec des musiciens en direct sur scène qui créent, illustrent le ou les films. Ça va?
Ouais.
C'est surtout beaucoup d'émotions parce ouais. que le couple musique et cinéma, musique et vidéo, c'est prometteur, quoi. Plein d'émotions en général.
D'accord. Et du coup, ben, on va pouvoir vivre ces émotions à travers un film principalement, Les Trois Mousquetaires, et qui sera précédé d'un film de Alice Guy qui s'appelle La course à la saucisse.
Oui, c'est bien ça. Mais c'est le meilleur titre.
Oui, oui.
C'est le meilleur titre de film. Enfin, l'un des meilleurs. Il y en a quelques-uns. Il faudrait faire d'ailleurs un festival avec ces films au titre évocateur.
Il faut pas oublier effectivement La course à la saucisse. Oui, car c'est un des premiers films, hein, quand même. Voilà, c'était à peine une dizaine d'années. Après l'invention du cinéma. Et Alice Guy, c'est la première qui a... Enfin, vous m'arrêtez hein, si je me trompe, mais qui a fait des films de fiction.
De fiction.
Voilà,
ouais.
Parce que souvent, on filmait un bateau qui arrive au quai, un train qui arrive à la gare. Mmh. Là, c'est une course de saucisses, quoi.
C'est une course à la saucisse.
Très drôle.
Voilà, très drôle. Mmh. Et elle a fait un nombre de films incalculables,
oui.
d'une créativité, ouais. D'une créativité forte.
Et qui a mis beaucoup de temps à être reconnue dans...
Exactement.
Ouais. Donc c'est d'autant plus important d'ouvrir ce ciné-concert avec...
Oui, ce sont les artistes, le trio d'artistes qui a choisi ce film.
Okay.
Et les trois mousquetaires aussi, étroits comme fin
ouais.
mousquetaire ouais. de Max Linder. On leur a laissé le champ libre. C'est une production La Baume en musique.
D'accord. Vous parlez des musiciens et musiciennes.
Oui.
L'ensemble Fabria, qui est un ensemble assez actif, un peu polymorphe.
Polymorphe.
On va dire, qui s'adapte à un peu toutes les configurations. Un mot, justement, de l'ensemble. Et...
Oui, ce sont quatre femmes hein, qui l'ont créé il y a quelques années, hein, pas une dizaine d'années. Et il est né en Ardèche. Donc, même s'il est à géométrie variable, donc il y a des musiciens qui vont venir de Toulouse, de Montpellier, de Lyon, de Grenoble. Mais le cœur de l'ensemble, très féminin, sont ces femmes, et dont Estelle Arbulo, donc co-directrice artistique, est aussi la directrice du CEMA, l'école de musique, une des écoles de musique d'Aubenas.
D'accord.
Et elle défend un répertoire classique, ouvert, et aussi des créations, des formes de spectacles, comme ici un ciné-concert.
D'accord. Okay. On a un petit morceau pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance.
Yes,
on peut continuer de parler. On peut faire l'inverse. C'est-à-dire, appliquer des paroles sur une musique.
De faire un radio spectacle.
Donc, un radio concert.
Ils ont créé la musique du début à la fin avec beaucoup d'élégance, d'humour aussi. Il y a plein d'instruments. Il y a le violon d'Estelle, mais aussi le violon électrique d'Estelle. Le piano. Raphaël Hausson, qui est au piano, qui est un spécialiste du ciné-concert. Travaille beaucoup à Toulouse avec l'orchestre. Donc, c'est un travail de dentelle. Aujourd'hui, il y a eu deux représentations pour les élèves. Séquence un peu. Voilà. Pour les élèves du bassin d'Aubenas et du collège de Joyeuse.
D'accord. Et Leur réaction. Mais vas-y, hein, parce que sinon, moi, je...
Ouais, pareil.
moi, c'est pareil, donc j'ai peur de ne pas m'arrêter. Je suis obligé de parler de mon expérience personnelle quand je suis allé voir ce ciné-concert. Le film, à l'origine, est un film muet. Donc... il me semble, c'est
ah
bien
oui,
ça,
oui,
voilà.
Tout à fait, oui, oui.
On est en 1921. Et
voilà, et du coup, de voir des musiciens jouer par-dessus, déjà, ça prend tout son sens. Et ensuite, quand on rend dans cette musique, on en a entendu qui est très classique, très comment dire, écrite exactement. Le film est déjà une façon dérivée des trois mousquetaires.
Oui, c'est une parodie.
C'est
totalement.
Une parodie, voilà. Ah oui. Et quand la musique sert ce propos avec des sons complètement... Il y a de l'anachronisme à tout va.
Oui.
Il y a une scène qui est déjà drôle à la base, mais appuyée par les musiciens avec son synthé, on dirait un jeu vidéo. C'est vachement hilarant. Alors, quand vous rentrez dans cette salle, en fait, vous laissez embarquer dans un voyage de sons, d'images, et ce décalage crée une vraie satisfaction en tant que spectateur. Et on est vraiment... je trouve que j'ai rarement vu une œuvre actuelle compléter autant une ancienne œuvre. Et ça, je trouve, c'est à vivre.
Je leur transmettrai ce soir, hein, parce que c'est à 20h30, donc aucun cons. Il y a beaucoup, beaucoup de réservations, donc les auditeurs là, qui sont intéressés, faut venir plutôt vers 20h, quoi. Si vous voulez avoir cette chance. Et puis, c'est un spectacle qui va tourner ailleurs. Donc, on est hyper contents de créer en Ardèche. Là, en plus, avec des musiciens basés ici, et de grands talents, et que nos productions aillent partout ailleurs. C'est souvent, entre guillemets, un peu l'inverse. Et voilà, on est assez fiers de ça.
Mais d'ailleurs, ce qu'on vient d'entendre là, donc moi j'ai pas eu la chance d'assister à la projection de Les Trois Mousquetaires avec le concert, mais simplement à écouter la musique, ça nous plonge effectivement dans un univers à part entière. Je sais pas si vous avez fait la même chose, mais moi j'étais complètement partie dans cet univers qui est drôle, parce que Les Trois Mousquetaires, c'est effectivement, vous l'avez dit, quoi, c'est une farce.
Mmh. Oui, bah, y a tout, il y a des escarmouches, il y a aussi beaucoup de batailles d'épées, il y a des acrobaties, il y a des tromperies, hein, gentil, mais voilà. Donc c'est une farce, mais il y a aussi toutes les batailles qu'on attend dans Les Trois Mousquetaires. Ouais. Donc ça, c'est chouette aussi, ouais. Pour ceux qui aiment les capés d'épées.
Un film de capés d'épées.
Ouais, ça c'est top. On est propulsé dedans. Et les costumes aussi, les décors, je sais pas si tu te souviens, le revoyant ce matin, c'est fascinant. Pareil pour la course à la saucisse, le soin qu'il y a dans le décor, dans la mise en scène.
C'est dingue de voir cette caméra déjà l'époque suivre ce chien, hein, c'est bien ça, il y a un chien qui a tout un truc de saucisse.
Un caniche.
Il y a une inventivité dans le... c'est incroyable de voir ça aujourd'hui.
Il y a
un
berceau qui se fait écraser par un train quand même. Non, mais il n'y a personne dedans.
Oui, bien sûr. Les secrets du cinéma.
Vous révélez les trucs.
Ça spoil.
Je sais pas.
En fait, c'était personne dans le train, c'est ça?
Oui, exactement. Ouais, c'est un truc comme ça.
Personne dans le train, par contre, dans le berceau.
Il y a plein d'univers. Il y a du western aussi. C'est fou. Ouais.
Avec l'ensemble Fabria, donc ce soir à 20h30 au Théâtre des Quinconces de Vals-les-Bains. Merci beaucoup.
Merci
de votre invitation. Cellier. Belle rencontre.
Merci. De Fabria à la fabrication. On y est, la fabrication de courts-métrages avec donc nos deux invités, Hélène Duroc et Pierre Dron. Hélène Duroc est la réalisatrice des 4 courts-métrages. J'ai pris la parole, mais je ne peux pas m'empêcher. Hein.
Sophie, tu as bien raison.
De 4 courts-métrages alliant imaginaire et nature. Et Pierre Dron, vous êtes le producteur, suiveur de films, accompagnateur, distributeur, enthousiaste du film. Et vous êtes là pour... vous avez hier... proposé pour la première fois la projection en avant-première de cette nouvelle mouture, hein, puisqu'il y en avait, il y a eu 4 autres épisodes des Mal-aimés, on ne l'a pas dit encore, c'est Roquette et les Mal-aimés. D'abord, juste simplement ma première question, puisque c'est tout chaud. Et on était là d'ailleurs tous les trois, Nico qui est à la technique, Mathieu et moi, on est allés voir votre film en avant-première. Donc on a notre ressenti de spectateur, mais vous qui avez porté ce projet pendant longtemps et qui l'offrait pour la première fois.
Eh ben, c'était effectivement une aventure, surtout que en fait, Les Mal-Aimés, c'est une aventure qui date depuis presque 10 ans, puisqu'en fait, le premier programme Les Mal-Aimés a commencé à germer en 2014, après une rencontre avec la Ligue de protection des oiseaux. Et autour de la chauve-souris et de ce qu'on pouvait dire autour de la chauve-souris, de là a découlé des histoires sur le loup, sur les araignées. Et en fait, pour la petite histoire, donc j'ai travaillé pour le premier programme 5 ans toute seule dans mon studio, enfin pas tout à fait toute seule, mais en fait en tout cas j'ai travaillé beaucoup enfermée pour faire de l'animation image par image et puis de manière assez concentré et dans l'espoir d'offrir le meilleur à un public la sortie en salle s'est faite en septembre 2020, juste avant la fermeture des cinémas. Et donc je reviens sur cet épisode parce que en fait cette rencontre aujourd'hui, elle est à double effet, puisque à l'époque de la première sortie des films, il y a eu une énorme frustration de ne pas pouvoir rencontrer le public autant que j'aurais souhaité. Et pour ce deuxième programme, Roquette et les Mal-Aimés, c'était enfin la rencontre et des salles de cinéma avec pas de masque, des vrais rires d'enfants et en fait c'est tout ce que j'ai espéré là ces deux dernières années en fabriquant le programme. C'était ce moment là en fait, c'était ce moment de rencontre et de vie et de d'amusement autour d'un cinéma qui est vivant en fait. Je suis très heureuse d'être aux rencontres du cinéma pour pouvoir rencontrer ce jeune public aussi.
Ouais, c'est exactement ça. C'est en fait une rencontre qui a été un peu tronquée effectivement par le contexte. Et finalement là, c'était super chouette de pouvoir, parce que forcément dans un processus créatif où on crée des films pendant quelques années, il y a forcément des moments de doute qu'on traverse. Est-ce que je le fais bien? Est-ce que c'est ok? Est-ce que ça va marcher? Et là, je crois que dans les premières minutes où on a entendu les rires, les premières minutes aussi où on voit une petite fille, deux petites filles au premier rang danser, et là je me suis dit ok, on est dedans, c'est génial. Et en fait, c'est le moment où on peut kiffer vraiment notre... Enfin, on boude pas notre plaisir de profiter de ce temps hyper important quand on fait des films, parce qu'on fait des films pour un public. Mmh. Et là, d'aller rencontrer aux rencontres du cinéma, d'aller rencontrer notre public, c'est royal, quoi. Et surtout, d'aller prendre des retours hyper positifs, parce qu'après, on a eu un échange, on a montré pas mal de choses, on a essayé de faire une projection un peu interactive, ou en tout cas l'idée de faire que on soit acteur et non pas simple spectateur. Et donc ça, c'est vraiment chouette, quoi.
Et vas-y, oui, ça fait, c'est justement le fait de montrer en fait moi, ce qui m'a énormément plu dans ces films, c'est voilà, 4 épisodes, 4 aventures, 4 techniques d'animation complètement différentes, mais aussi les propos qui, ok, sont autour de, du coup, 5, c'est ça, il y a 5 animaux, ouais.
5 animaux,
5 animaux, parce qu'il y en a 2 dans le dernier, et autour de, l'approche est vraiment différente. Il y a des approches qui sont plutôt sensibles par le son, d'ailleurs ça ouvre comme ça. En tant qu'enfant au cinéma, le son est extrêmement important, la sensibilité n'est pas la même, on est plongé dans l'obscurité, et la première chose que l'enfant voit, c'est qu'est-ce qui rentre dans nos oreilles, et des fois ça peut être fort, faible et être à l'écoute. Et directement, le jeune public se met à l'écoute de tout ce qui va suivre, en fait. Et j'ai trouvé ça assez fort de votre part, d'ouvrir déjà l'ensemble de courts-métrages comme ça.
Avec un court-métrage qui s'appelle Les Bruits, justement.
Oui, sur, ouais, c'est ça.
Sur le corbeau.
C'est ça. Et après, une fois que le terrain est posé, ben, on est plus à l'écoute des autres histoires autour de l'ours, du requin, que j'ai trouvé extrêmement touchant. Et bien
requin
sûr,
sans parole.
Oui, justement. Sans parole, avec une certaine poésie dans la représentation de l'eau, mais aussi de la perception du monde, de la métaphore autour de l'action humaine. J'ai trouvé ça très beau.
C'est génial. C'est un deuxième cadeau que vous nous faites.
Je suis même curieux de. Je ne sais pas si vous en avez parlé avec les enfants de celui-ci en particulier, de savoir comment eux le reçoivent, comment ils l'interprètent, bien sûr, d'un regard différent du nôtre, mais comment, à quel niveau vous pouvez les toucher sur ça. Voilà, c'est vraiment intriguant et très beau, quoi.
C'est vrai, c'est une question, je pense, qu'on se pose tous. Comment les enfants reçoivent la poésie et la métaphore, c'est-à-dire sans message, sans narration claire ou en tout cas perceptible au premier abord.
Et ben on attend avec impatience leur retour. On est assez présent sur les réseaux sociaux et sur on a mis en place un site internet qui s'appelle lesmalaimés.fr.
Mais non, les enfants, n'allez pas sur les réseaux sociaux
non,
avant.
Mais par contre, on sait qu'il y a les parents qui emmènent de toute façon. Les enfants ne vont pas non plus tout seuls au cinéma, ils sont forcément accompagnés. mais sur même sur le premier programme, ça a donné lieu à plein d'interventions d'instituteurs, d'institutrices qui s'emparent des projets. Et nous, on demande que ça, d'avoir aussi des enfin que les gens aient envie de s'approprier nos jouets. et puis qu'ils nous fassent leur retour avec grand plaisir, parce que là, c'est vrai que c'était les premières rencontres en vrai avec eux. Là, on n'a pas eu le temps d'échanger trop avec eux. Et à la fin de la séance, je ne sais pas si vous étiez encore là, on a présenté le dernier court-métrage, c'est sûr, avec des marionnettes. Et donc, on a présenté les marionnettes et ça a eu beaucoup d'intérêt. Tous les enfants avaient envie de toucher les marionnettes.
Parce qu'il y a ce côté-là, c'est peut-être aussi, on en a parlé ensemble, Mathieu et moi, il y a ce côté qui est très intéressant dans les films. D'abord, il laisse beaucoup de place à l'imaginaire. Et il laisse aussi la place, notamment dans deux films et deux techniques, où on voit les trucs, justement. On voit par exemple avec les marionnettes, donc Roquette et Lucie, on voit comment on appelle ça,
les fils, hein,
les fils, enfin ouais, c'est même des bâtons.
On voit les baguettes.
On voit les baguettes, voilà, les baguettes qui servent à faire avancer les marionnettes. Ou dans Qui a vu l'ours, voilà, on voit comment se crée aussi le film d'animation.
En fait, le propos autour de ces films, Les Mal-Aimés, c'est vraiment l'idée d'amener les enfants dans la nature et non pas sur les réseaux sociaux. Mmh. Et en fait, pour ça, en tout cas, l'objectif, c'était de faire en sorte que le premier programme leur a permis d'ouvrir les discussions, d'ouvrir les échanges avec les adultes, parce que pour nous, la meilleure manière de changer le monde en bien, c'est pas par les adultes, mais plutôt par les enfants. Donc c'est les enfants qui vont bouger les lignes. Et là, avec ce deuxième programme, l'idée, c'était d'aller encore plus loin. Et pour nous, la meilleure manière de changer un petit peu les choses dans le monde qui nous entoure, c'est aussi de les faire agir. Et en fait, à la fin de ces films, il y a des retours qu'on a eus, c'est nous dire « Ah, mais en fait, je pourrais le faire. » Et en fait, c'est le meilleur retour qu'on puisse nous faire, parce qu'en effet, tu peux le faire. Et en rentrant chez toi, on veut que tu racontes des histoires. On veut que tu prennes des petits bouts de papier. On veut que tu prennes des bouts de chaussettes pour faire une marionnette. Et on veut que tu racontes des histoires. Et que finalement, tu parlais d'imaginaire tout à l'heure, et donc merci pour ce compliment. C'est aussi de raconter de nouveaux imaginaires autour de cette biodiversité, autour du monde qui nous entoure. Et ça commence effectivement chez les plus jeunes. Et donc, l'idée de montrer les ficelles, de dédramatiser, ou en tout cas de créer une connexion beaucoup plus proche entre « je crée des films » et « je regarde des films », permet forcément de passer à l'action. Et si on fait en sorte que les enfants passent à l'action, eh ben on a tout gagné. Donc voilà.
Parce que sur le premier programme aussi, il n'y avait pas du tout ce côté truc et astuce. Mais par contre, j'avais travaillé avec des jeunes comédiens et comédiennes. Et c'est quelque chose où je me suis rendu compte que ça touchait vraiment le jeune public d'avoir en miroir quelqu'un de leur âge qui est sur grand écran. Et j'ai eu beaucoup d'enfants qui avaient envie aussi de raconter des choses ou d'être comédien, comme on peut avoir des rêves de comédie, etc. Mais là, du coup, j'avais vraiment envie que ce soit... moi, je fais des films pour les enfants. Et j'avais envie que ce soit eux qui soient au cœur de ça et qui puissent effectivement s'emparer des outils qui sont à leur disposition. Et notamment pour le film de l'ours, c'est du papier et des crayons que tout le monde peut avoir.
Toutes les chambres d'enfants.
Ça donne d'ailleurs des effets très intéressants dans la nature, puisque vous trimballez l'enfant, l'ours, la famille, etc. dans la nature. Et c'est vrai que ce contraste entre la nature filmée et ces êtres de papier, c'est un effet assez extraordinaire, le contraste.
Il y a aussi tout un jeu d'échelle où on peut se perdre aussi. De toute façon, les Pyrénées, c'est grandiose et on se sent tout petit. Et quand on a une petite marionnette en papier, c'est vrai que du coup, on a aussi plus cet effet de contraste. Et en fait, pour la petite histoire, à la base, on était partie un mois dans les Pyrénées pour que je fasse des dessins, des décors du film. Et au bout de 3 semaines où je dessinais tous les jours le même décor qui changeait tout le temps et qui était toujours aussi beau, mais en fait était insaisissable.
Enfin, différent. Ouais.
Je me suis dit, mais en fait,
on peut pas retranscrire cette nature qui est dingue en dessin.
Bien sûr,
et en fait, c'est là où Hélène a imaginé ces petits personnages. Et en fait, on est encore plus loin dans ce côté craft, ce côté. Do it yourself et vraiment cette connexion hyper importante avec le public qui pour nous est aujourd'hui indispensable, en tout cas dans le message qu'on veut transmettre, c'est pour changer les choses, faites des choses quoi. Soyez acteur et c'est un cinéma qui est peut-être un peu différent finalement, où on est spectateur, et là en fait on est spectateur certes, mais en tout cas j'espère que nos films donnent envie d'agir, envie de créer, envie de faire quoi.
En plus, niveau réalisation, on sent que, pour parler toujours du même, au début, ça commence avec les personnages, on voit la tablette derrière. Il y a vraiment une évolution où, on regarde un film, il y a les trucs et astuces qui sont montrés, mais c'est pas montré c'est un choix assumé, mais ce n'est pas montré en disant voilà, notre film, il est comme ça et comme ça. Non, il y a une vraie évolution dans le fait, voilà de quoi on part, voilà ce qu'on a sur notre table. Nous, on est des créateurs, vous êtes au cinéma, on vous présente des choses que l'on a fait nous. D'ailleurs, il y avait beaucoup de sens puisque vous y étiez là pour présenter la séance. Et directement, les enfants savent qu'ils voient... Ils sont, ils sont connectés directement à la création, en fait. Au fait de vouloir créer des choses. Et quand on voit au fur et à mesure le film qui évolue, et là, on voit les personnages dans la nature, on comprend comment cela fonctionne. Et j'ai trouvé ça assez fort, quoi. Je ne sais pas combien il dure celui-ci, mais en 6-7 minutes, c'est assez fort.
Bah oui, il y a aussi...
Qui a vu l'ours ? Le film.
Oui. Il y a aussi tout le côté, quand on va au cinéma pour les premières fois, et quand même nous, on se présente en tant que réalisateur et producteur, réalisatrice, pardon, il y a les enfants, quand on fait du dessin animé, oui, on fait du dessin, mais comment ça bouge, et puis c'est quoi réaliser un film? Et donc, il y a aussi ce côté un petit peu où j'ai voulu briser cette espèce de frontière entre spectateur et réalisation.
Cette distance, oui. Moi, j'ai une question un peu naïve. Comment on arrive à savoir l'âge pour lequel nos réalisations s'adressent? Est-ce que c'est par tâtonnement, c'est ajustement, ou on se dit que de toute façon... Ce qui est une réalité, on ne sait pas comment. Enfin, chacun va recevoir le film différemment, donc c'est un peu hop là, on y va et on se dit que la métaphore, la poésie parlera et les enfants prendront ce qu'ils prendront. Ou il y a quand même des cadres, des limites.
Je pense qu'il y a un truc qui est pour nous aussi important, c'est que derrière les films doivent être accompagnés. C'est aussi pour ça qu'on fait des films au cinéma et non pas des films en télé ou des films sur tablette. Même si évidemment.
Mais il y aura une sortie DVD peut-être.
Sans doute, ouais. En tout cas, on espère, on y travaille. Et puis il y a déjà eu les sorties DVD. Mais en fait, pour nous, c'est vraiment un lieu dans lequel on va échanger, on va partager, on va vivre des émotions, on va les vivre. Et en fait, il y avait aussi cette idée de finalement.
Où on peut poser des questions aussi. En fait, ouais. C'est comme c'est toujours accompagné d'adultes ou de mmh. le fait de pouvoir être spectateur, mais pas que. Enfin, d'être aussi en demande et de ne pas avoir toutes les réponses comme il peut y avoir à la télé. À la télé, quand on regarde un film ou une série, il faut pouvoir laisser l'enfant devant la télé. Et puis aller faire à manger. Et je ne juge pas, c'est comme ça. Mais en tout cas, pour le cinéma, c'est une notion de spectateur tout à fait différent où il faut vraiment qu'il puisse y avoir justement ce champ de
questionnement. Et c'est là où l'enfant, justement, il pose des questions. Parce qu'il dit pourquoi. Et en fait, l'adulte ne sait pas vraiment, pas toujours répondre. Et donc, en fait, c'est là où le cheminement va se faire sur les questionnements sur la biodiversité. Ce que vous disiez en introduction sur, effectivement, notre place à nous en tant qu'être humain. Et finalement, pour répondre à la question initiale de quel âge, en fait, c'est difficile parce qu'en gros, on a plusieurs sens de lecture aussi. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, les enfants ne vont pas seuls au cinéma, donc il y a des adultes. Donc c'est aussi de se dire, c'est aussi des films pour les adultes où ils passent un bon moment. Et c'est souvent des fratries, des familles. Donc en fait, on a eu des premiers cinémas. D'ailleurs, hier, il y avait une petite qui avait 2 ans et demi. Et puis des enfants un peu plus âgés qui avaient sans doute 9-10 ans. Et donc c'est aussi d'arriver à toucher tous ces enfants. Et après, pour déterminer l'âge, en fait, la culture... Et je pense que c'est plus une question de sensibilité, plus qu'une question de culture. Est-ce que j'ai vu des films avant ? Et en fait, ma sensibilité... En effet, de démarrer par une petite comptine, c'est doux, c'est tranquille, on est plus jeune et ça passe, et d'aller crescendo et d'accompagner ça, c'est aussi une manière de... Maintenant, en fait, c'est difficile parce qu'en même temps, on nous demande, les salles de cinéma nous demandent et on a besoin de mettre un petit tampon avec l'âge, mais en fait, on n'est pas grand monde, enfin, on n'est pas en position de dire c'est tel âge ou tel âge, parce qu'en fait, c'est aussi aux parents. Puis, de toute façon, sur le précédent programme, on avait mis, je crois, 4 ans, 5 ans, sauf qu'en fait, les gens venaient avec des enfants de 3 ans, un an de moins à chaque fois. Donc, en fait, c'est aussi au libre choix de chacun, l'éducation qu'ils ont envie par rapport aux écrans, par rapport au cinéma, et puis... Je pense que c'est plus de passer un moment dans lequel on va pouvoir échanger, partager et d'accompagner finalement cette rencontre et pas juste être passif, mais vraiment d'être dans l'action.
En tout cas, pour revenir juste sur l'idée de l'âge aussi, on a toujours eu dans l'idée de ne pas prendre les enfants pour des bébés, enfin de pas...
Des sous-adultes.
Oui, voilà, c'est ça, de dire oui, on s'adresse au jeune public, mais... on va pas faire gaga. Enfin, on leur adresse un message et après, comme vous disiez tout à l'heure, ils vont en avoir une interprétation qui va nous surprendre et qui va être très chouette d'une certaine manière.
Ouais, je sais plus qui avait dit ça, mais il y a quelque chose qui me revient, c'est que au cinéma, pour les enfants ou même pour nous adultes, on est toujours marqué par ce qui est plus grand que nous, par ce qui nous dépasse, par ce qui... Et je pense que c'est un peu ça. Les enfants découvrent un monde au cinéma quand c'est accompagné, comme je trouve que c'est l'éducation aux images, comme vous faites, c'est encore mieux. Et voilà, je pense que c'est ça, en fait, tout l'intérêt du cinéma, quoi. Les marquer. Il y a moyen qu'ils s'en souviennent longtemps. Ouais.
Ben on espère, en tout cas, c'est l'objectif après de les marquer ou en tous les cas d'être un moment avec eux et de leur dire voilà ce que nous on a à raconter. Et en fait, on a souvent aussi plutôt des questions pas de censure, mais d'adultes qui vont nous dire ah ça, et en fait, ou d'interprétation, pourquoi si, pourquoi ça. Et en fait, moi j'ai pas de réponse. En fait, on a imaginé ces films et toi, qu'est-ce que t'en penses? Et en fait, de reposer la question quand on a une question, pourquoi il se passe telle action, et de dire et toi, qu'est-ce que tu en penses? Et ben, ils ont tous une interprétation, et ça, c'est aussi de leur dire ah bah tu vois, tu peux amener ton point de vue, et ton point de vue, il est aussi valable que le mien, que celui de ta voisine, ton voisin, etc. Et c'est aussi une manière de vivre ensemble, en fait.
Et puis de redonner vraiment sa place à la création. Parce que la création, c'est proprement ça. Ça dépasse complètement ce que l'auteur a voulu faire.
Exactement.
Ouais. La création a une. De toute façon, elle ne peut être que reçue. Donc c'est ce que la personne qui le reçoit en fait.
Ouais, c'est en plus c'est super chouette de souligner ça, parce que c'est ce qu'on essaie d'expliquer, ce qu'on essaie de transmettre, mais tant qu'on n'a pas vu les projets, tant qu'on on les a pas touchés des yeux, c'est difficile. Mais ce qu'on veut aussi, nous, c'est faire en sorte de rapprocher les gens de la création, parce que plus on va créer et de façon sans forcément être un professionnel du dessin, de l'image, de la musique, etc., mais plus on va rapprocher le public de la création, et plus on va donner aussi une connaissance, une envie d'aller voir des films, d'aller voir des spectacles. Et en fait, on vit aussi de ça, et en fait c'est encore une fois une question d'émotion, et c'est une manière de voir le monde différente de ce qu'on a peut-être l'habitude de voir dans les médias, en télé, etc. Donc c'est aussi un autre point de vue que je trouve intéressant et important de faire, en tout cas pour les plus jeunes, quoi.
Et en fait, pour en revenir à l'âge, etc., en fait, j'ai voulu aussi faire une espèce d'antidote à certains films blockbusters qui ont marqué justement peut-être nos générations plus jeunes. Moi, j'ai des copines qui sont phobiques du requin. On ne vit pas du tout au bord de la mer.
Oui, revenons d'ailleurs au cœur aussi, ces animaux mal aimés.
Donc, oui.
Déconstruire les mythes qui nous ont été...
Voilà, et qui ont été des mythes qui ont été transmis par le cinéma. Et en fait, le cinéma, c'est à la fois... Ça peut être un vecteur d'images très fortes, mais qui peuvent aussi avoir un impact négatif. Je ne pense pas que Spielberg avait voulu faire autant de mal à la biodiversité que ça en faisant ce film à sensation. Mais le fait est que là, 30 ans plus tard, il y a encore des gens qui ne peuvent pas regarder ne serait-ce qu'une image de requin sans avoir un coup de stress. Je sais que j'ai été phobique des araignées pendant très longtemps, donc je sais ce que ça peut faire et je n'ai pas du tout envie de provoquer des frayeurs. Mais en tout cas, nous, ce qu'on s'était dit aussi avec ce programme des mal-aimés, c'était de faire une sorte d'antidote pour un monde meilleur, en tout cas, de se dire est-ce qu'on peut, en tout cas pour des premiers spectateurs, de pas transmettre de la peur, mais de se mettre à hauteur d'animaux étonnants, et de voir à quel point ça peut être fascinant aussi. Et c'est qu'est-ce que ça veut dire de notre société quand on a peur de quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on ne verra jamais. Parce que quand on vit à Valence ou à Paris, y a peu de chances qu'on rencontre un requin dans notre vie.
Il y avait d'ailleurs une petite fille qui était à 8-9 ans hier, qui est venue me voir en me disant « Moi, j'ai peur de l'ours ». Et je lui ai expliqué qu'en fait, l'ours des Pyrénées, et d'ailleurs, c'est ce qu'on a appris nous en allant dans les Pyrénées, et je lui ai dit « L'ours des Pyrénées n'est pas plus grand que toi ». Et en fait, il passe sous la table. Elle fait « Ah bon, mais c'est si petit ». Et là, tout de suite, la peur, elle s'est complètement... transformer. Et effectivement, c'est important qu'on puisse véhiculer d'autres images, parce que même nous, on avait l'image de l'ours nord-américain qui va nous courser, à qui il faut balancer son sac à dos pour pouvoir dévaler. Et l'ours des Pyrénées, déjà, on ne le voit pas, parce qu'en fait, il nous fuit, il nous voit de loin, il nous sent, et donc il ne va surtout pas nous approcher. Et donc la rencontre avec la nature, avec le loup, avec l'ours, elle est impossible. Elle est possible, mais dans des conditions vraiment où il faut... Et en fait, aujourd'hui, le grand public ne les verra pas. Donc en fait, c'est aussi de transmettre une autre réalité et de montrer qu'effectivement, il y a peut-être d'autres façons de voir la nature qu'à travers ce qu'on peut voir dans les médias. Ou, en tout cas, d'apporter un autre point de vue. Et comme disait Hélène, de rebasculer peut-être ce qu'on appelle, nous, le « nature way of life ». Parce qu'il y a eu le cinéma a véhiculé toute une philosophie de vie américaine, etc. Et en fait, nous, ce qu'on essaye de faire avec ces films, c'est de véhiculer une autre façon de voir la nature à travers nos films, quoi.
De compagnonnage, de familiarisation avec ces autres espèces vivantes.
Oui, c'est ça.
Une resensibilisation, hein, parce que c'est vrai qu'on se rend compte que depuis quelques années... Ce n'est pas que les enfants, d'ailleurs, les enfants et les adultes sont de moins en moins en contact, ont de moins en moins d'interaction avec ce qu'on va appeler, à défaut d'autres termes, la nature. Et justement, par le biais de la fiction, de l'animation, de l'art, des créations, c'est aussi refaire surgir d'autres mondes pour qu'ils se refamiliarisent avec ce dont ils se sont éloignés. Ouais. Et ce qui contribue, encore une fois, ce que vous disiez, la connaissance ou la familiarité, la familiarisation, ça atténue la peur et donc l'agressivité à l'encontre
de. Et puis en plus, on peut le faire de manière un peu fun, un peu visuelle, un peu créative. Et en fait, c'est effectivement cette idée. Nous, on vit en ville, on a un chien et on voit effectivement, alors que le chien, c'est quand même le meilleur ami de l'homme, mais on voit quand même des frayeurs ou des gens qui contournent. Et on se dit qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire. Ou pareil, il y a des données qui sont assez... effrayante parfois. En fait, les enfants aujourd'hui sont capables d'identifier des logos de grandes marques, ils ne sont pas capables d'identifier des feuilles d'un arbre ou le chant d'un oiseau. Donc c'est aussi de remettre les choses un petit peu en perspective et notre place d'humain dans cet écosystème, parce que sans cet écosystème, en fait, on disparaît. Donc, donc c'est aussi de remettre de façon un peu plus... de façon un peu plus... évidemment, il n'y a pas de discours, on laisse la porte ouverte et à chacun de faire son petit chemin et...
Oui, et c'est très intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire que je me demandais comment on fait, comment on ajuste l'équilibre entre, on va dire, la didactique ou le message et l'imaginaire.
Eh ben en fait, quand on fait un film, on veut transmettre une émotion, moi c'est toujours... une aventure ou en tout cas là sur le film sur le corbeau c'est une comptine, donc moi j'ai aussi un passé de réalisatrice de clips et je suis toujours très sensible à la musique, j'ai écrit aussi des comédies musicales, enfin du coup je suis beaucoup dans ce partage de quelques, il faut que ce soit quand même toujours un amusement, c'est-à-dire que je fais pas là je peux faire du making of pour autre chose ou faire une présentation plus spécifique sur un animal pour la Ligue de protection des oiseaux, mais par contre quand je fais un court-métrage pour le cinéma il y a toujours quelque chose d'expérimental et c'est aussi pour ça que j'ai toujours une technique de film différente qui s'adapte à un scénario, à une aventure, à une poésie, à une musique différente.
Et c'est pour ça effectivement qu'il y a une diversité d'univers et à chaque fois c'est une histoire, une aventure, et Hélène va créer tout autour un écosystème, puisqu'on parle aussi d'écosystème dans la nature, et c'est cet écosystème créatif qui fait qu'on a cette diversité parce que rien n'est commandé d'avance, quoi.
La suite pour quelle vie pour ces quatre courts-métrages ?
La suite, c'est une sortie au cinéma à partir du 7 février 2024. Et la suite, ben on l'espère, c'est plein de rencontres comme on l'a fait ici, plein de discussions avec des gens passionnés comme on le fait là maintenant, et puis aussi des rencontres avec le public et faire en sorte que, en effet, comme on l'a dit, d'agir, de travailler sur, de faire des marionnettes, raconter des histoires et de travailler ce développement d'un nouvel imaginaire. Et puis après, ben les mal aimés, il y en a à foison, donc on peut imaginer des suites. Donc en fait on espère
les
pouvoir
suites,
continuer
comme le cinéma américain, les mal aimés 4, les mal aimés 8
prequel.
En fait c'est exactement ça, en fait, en même
un
temps
spin-off.
Il y a et là on espère en tout cas, parce que finalement, c'est pas forcément toujours bien fait avec ces suites qui nous gonflent parfois. Alors que là, finalement, en fait, il y a des univers nouveaux et en fait, on va redécouvrir quelque chose de nouveau, différent.
C'est plus élargir le contexte.
Exactement.
Qu'une vraie suite, quoi.
Ouais, c'est ça. D'ailleurs, Hélène me reprend souvent quand je dis la suite, c'est pas une suite. Ouais. C'est quatre nouveaux films, quatre nouvelles aventures, quoi.
Est-ce qu'on a un peu de temps, Sophie, pour une question ?
Une minute ou deux.
Allez, c'est juste pour savoir pour la musique. Surtout pour le dernier avec le renard et la blairelle.
La renarde.
La renarde. Ah,
elles
oui.
sont deux. Elles sont deux. D'accord. Elles sont femmes. Les deux.
L'importance des femmes.
Il y en a une qui est punk.
La renarde punk, exactement.
On passe de la comptine au punk.
Comment ça s'est passé ? C'est la musique qui a donné. Qui a donné l'idée de faire ce petit court-métrage, ou c'est l'inverse, en disant comment servir le propos ? Ah, on va trouver une musique.
Pour le premier programme des Mal-aimés, on avait fait chanter des vers de terre. Une comédie musicale avec des vers de terre qui chantent. Et c'est Jean-Pierre Poirel qui avait écrit une poésie en vers avec les vers de terre. Et pour ce deuxième programme, c'est lui qui a écrit une histoire avec Roquette et Lucie, donc la renarde et la blairelle, avec avec ce ton un petit peu rigolo et, complètement déjanté, décadent. Et donc voilà, à partir de son texte, je travaille avec Nathanaël Bergès sur la composition musicale. Et lui a travaillé aussi avec un chanteur et une chanteuse. Donc c'est une renarde qui est interprétée par Quentin Meige, qui est un homme, et qui a perdu la voix pendant 10 jours après avoir interprété Roquette la renarde.
Et en fait, effectivement, Hélène est une fan de comédie musicale, et l'idée, c'est aussi de raconter les choses, encore une fois, en élargissant le spectre, en montrant une autre manière de faire des films, parce qu'une comédie musicale, c'est aussi une autre façon. Et en fait, ce qu'on veut, c'est créer de la vie dans les salles de cinéma, et donc de pouvoir chanter, danser. C'est aussi ça. Moi, j'adore quand les enfants dansent sur leur siège, se lèvent, applaudissent, et c'est ce qu'on a réussi à faire avec toute une équipe autour, évidemment, de créatifs. Et c'est aussi de laisser libre cours entre la musique qui est écrite, en fait, on des allers-retours entre le scénariste, l'univers, on savait que c'était des marionnettes, et en fait c'est aussi des rencontres, des échanges
et la vie.
Ouais, c'est
ouais,
ça,
la vie, ouais, exactement.
C'est Lucas Meige, pas Quentin, pardon, c'est son frère.
Eh ben, merci tous les deux. Merci Hélène Duroc.
Ducrot.
J'ai pas osé.
C'est moi, je suis le responsable.
J'étais venue avec Hélène Ducrot. Il me dit, tu es sûre, ce n'est pas Duroc.
C'est Ducrot. Il y a plein de C partout dans mon nom.
Hélène Ducrot, pardon, excusez-moi. Réalisatrice, et Pierre Dron. Producteur, distributeur du film pour Citron Bien Cinéma, je ne l'ai pas cité tout à l'heure. Merci à vous deux de nous avoir rejoints dans le studio.
Merci à vous.
Merci Mathieu.
Merci Sophie. Et merci Nico à la
technique. Merci Nico et merci Sylvain derrière. Et on se retrouve demain pour à midi des courts-métrages, pour la battle des courts-métrages, et à 17h avec Gilles Menegaldo pour La Hammer. D'autres programmes tout aussi fous, tout aussi riches. Allez, à demain. Ciao.